8h10 minutes, il y a une date importante, c'est le 1er mars. C'est la date butoir, là, le fameux cessez-le-feu qui pourrait prendre fin. Il y avait toujours des négociations pour non seulement prolonger ce cessez-le-feu, mais également établir un plan de paix. Mais là, il y a un petit peu de sable dans l'engrenage. D'abord, il y a cette décision annoncée samedi par Israël de ne pas libérer, comme prévu, plus de 600 détenus palestiniens après la remise de 6 otages israéliens. Pourquoi? Ben justement, et M. Netanyahou qui dit qu'il est prêt à reprendre les combats. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien pourtant. Mais on va parler avec Sami Aoun, professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Sami.
Bonjour Michel.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça semblait tenir un peu ce cessez-le-feu? Qu'est-ce qui explique le changement d'attitude?
Du côté israélien au moins, et le prétexte c'était que pratiquement la libération des otages et des cadavres était d'une façon humiliante et offensante. Et ça, c'est le prétexte. Mais en fond de la question, il semble que M. Netanyahou se prépare soit à un autre troc ou une autre entente qui pourrait libérer tous les otages et les dépouilles. En même temps, il libère un nombre indéterminé et qui pourrait être plus que 1 000 ou plus des prisonniers palestiniens chez lui. En ce sens, il veut brûler. Et la deuxième étape et la troisième étape par après, en ce sens qu'il veut raccourcir pratiquement les phases et les séquences de l'entente précédente. Du côté de Hamas, il semble qu'ils craignent pratiquement que les Israéliens imposent un cordon de sécurité dans le nord de Gaza, selon le plan des généraux bien connus en Israël de Igiora Allen, qui voulait vraiment faire nettoyer, entre guillemets, la présence palestinienne des Gazaouis sur les frontières directes avec Israël. Et aussi, le Hamas veut se chercher aussi d'une façon à dire qu'ils sont toujours sur l'échiquier, qu'ils sont toujours sur le terrain, et aussi, ils sont l'interlocuteur, faute de la présence de l'autorité palestinienne et le fait qu'ils sont un pouvoir du fait accompli à Gaza. Et c'est en ce sens, entre les deux, le Hamas espère que le gouvernement Netanyahou va les laisser gouverner minimalement à Gaza ou administrer la bande de Gaza, et aussi l'autre part que M. Netanyahou ne veut pas voir une unité palestinienne sur la bande de Gaza, pratiquement entre une alliance entre l'autorité palestinienne et de Gaza. Ce sont ce qui est en l'air des rumeurs qui circulent dans la bande.
Mais ça ressemble un peu à un prétexte, là, les cérémonies humiliantes, pour un peu reprendre ce combat contre le Hamas.
Oui, certainement. C'est le but. Et pratiquement, est-ce que c'est un combat qui va être décisif? Il semble que l'armée israélienne se prépare, mais à vrai dire, de point de vue politique, on n'est pas sûr que dans l'intérêt israélien, vraiment, d'éjecter Hamas complètement de la bande de Gaza et ouvrir la voie pour l'arrivée de l'autorité palestinienne et donc de l'Organisation de libération de la Palestine, pratiquement, et cela pourrait refaire revivre le rêve de l'État palestinien et les possibilités d'aller vers un pacte selon la solution à deux États. Alors, on n'est pas sûr quel est l'objectif vraiment israélien. Est-ce que vraiment c'est d'éliminer Gaza complètement et le Hamas et l'occuper encore une fois ou simplement faire une frappe cette fois-ci plus douloureuse pour le Hamas, pour la garder presque à un niveau minimal dans sa façon d'administrer Gaza.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi le gouvernement israélien, enfin, le gouvernement Netanyahou, qui est sous pression de l'extrême droite israélienne, là, qui n'a peut-être pas envie d'un règlement comme celui-là, de laisser le Hamas en vie? Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette pression de l'extrême droite qui menace un peu le gouvernement israélien?
Oui. Oui, certainement. Les sionistes religieux imposent leur agenda sur le gouvernement israélien et sur Israël. Ça, c'est clair. Le point qui reste aussi en suspens, on ne sait pas quelle est l'ultime intention de M. Trump. Est-ce que vraiment qu'il ne veut pas la guerre, il ne veut pas un retour à la guerre, au moins c'est ce qu'il affiche, mais en même temps, il veut lui-même aussi accéder à Israël la possibilité de vraiment évincer le Hamas et l'affaiblir complètement pour ouvrir encore une fois une certaine paix entre les Arabes et Israël, particulièrement l'Arabie saoudite. C'est un point qui est toujours superflu. On ne sait pas très bien comment on pourrait l'encadrer. Mais comme on se dit, il y a différents scénarios qui sont déjà sur la table.
Mais parmi ces scénarios, il y avait ce plan là que Donald Trump a avancé, de transformer en station balnéaire. On n'entend plus parler. Est-ce qu'on est passé à autre chose?
Oui, il est entre les mains maintenant de l'Égypte, tout particulièrement, et avec les pays arabes. En ce sens, le but maintenant de préparer des plans de reconstruction sans nécessairement faire déplacer les Palestiniens hors la bande de Gaza. Et sur ce point, maintenant, M. Trump a compris que son projet est un peu plus, un peu superflu, un peu plus de la science-fiction que réellement. Mais son aspect positif, si vous voulez, c'est l'électrochoc. Il a amené les Arabes à penser hors les sentiers battus et sur comment faire avec cette bande de Gaza, comment faire avec les peuples gazaouis. C'est clair que ce serait la dernière guerre que Hamas et les autres groupes islamistes comme le djihad pourraient mener contre Israël. Ça, c'est aussi un aspect positif. Mais l'autre aspect, que faire avec une masse de population qui a un rêve de créer son propre État et aussi se libérer de l'occupation israélienne? Ça, le point reste un angle mort, pratiquement.
Dernière question, Samy. Quels sont les risques là, que les combats reprennent, comme dit M. Benjamin Netanyahou, et que finalement, le cessez-le-feu, ça arrête le 1er mars?
C'est un peu difficile à prédire. On voit que M. Netanyahou ouvre différents combats dans la région. D'un côté, il est quand même enchanté de la défaite de Hezbollah au Liban, et le Liban maintenant prend un parcours plutôt hors la tutelle iranienne, comme on s'exprime là-bas, mais aussi pour la Syrie, on voit qu'ils sont maintenant contre la nouvelle administration syrienne. Ils essaient d'ouvrir un autre combat en Syrie, dominer le Golan et même appeler à la protection des minorités, surtout la minorité druze, ce qui vraiment pourrait dérailler le processus de récupération de la Syrie en ce sens. Et pour le Hamas et la Palestine, c'est la même chose. C'est dans la zone d'influence d'une puissance israélienne dominante et qui dicte, si vous voulez, le rythme des événements dans son entourage pour en finir avec ce qu'il croyait être un encerclement par le feu qui est autour des frontières israéliennes.
À toute fin utile, Samy, cette question là, de déplacer les Gazaouis, que ce soit en Cisjordanie, en Égypte ou ailleurs, au Moyen-Orient, tout ça, c'est mort et enterré, là.
Oui, presque, au moins. On ne sait pas quel serait le sursaut, mais vous avez raison de souligner que la menace est vraiment existentielle pour les Palestiniens. C'est la Cisjordanie. C'est là où il y a une justification, qu'elle soit religieuse, sioniste, juive, et tandis que la bande de Gaza n'est pas vraiment dans, si vous voulez, la justification et l'instrumentalisation religieuse par rapport au judaïsme à Gaza. Ce qui est le cas israélien dans la Cisjordanie, il y a pratiquement une menace qui devient très élevé, et c'est pourquoi il faut voir que le nouveau défi pour les Palestiniens, c'est comment préserver et protéger la Cisjordanie, et sinon, pratiquement, les zones qui sont sous gouvernance palestinienne vont se rétrécir beaucoup, on l'a vu dans le camp de Jenin qui est presque rasé.
Merci infiniment, Samy, toujours très intéressant, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.
Je vous en prie.
Merci. Sami Aoun est professeur émérite à l'Université de Sherbrooke et directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient, la chaire Raoul Dandurand. Au retour, je vous parle de deux petites nouvelles économiques, notamment de l'Ion électrique.